franceinter.fr.
Il est 8h21.
Le 7-9, Patrick Cohen sur France Inter.
Bonjour Julien Drey.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de la région Île-de-France, tête de liste du UPS dans le Val-de-Marne pour les régionales. Vous avez cofondé SOS Racisme et consacré une partie de votre vie politique à combattre le Front National. Et aujourd'hui, vous lisez les sondages à 4 jours du premier tour des régionales. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que le FN en vienne à gouverner 1, 2, voire 3 régions et donc plusieurs millions de Français?
Une mobilisation citoyenne. C'est-à-dire le fait que chacun se pose la question, non pas qu'est-ce que la République va faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour la République, qu'est-ce que je peux faire pour la société dans laquelle je vis. Est-ce que ce rendez-vous, qui est un rendez-vous d'une élection locale, intermédiaire, ne devient pas un rendez-vous très important? Est-ce que le message que le monde va lire au soir de ces élections, c'est qu'après les attentats, alors que la France a été est devenue un symbole de liberté, elle se replie sur elle-même, elle a peur des autres? Et elle commence des politiques discriminatoires.
Ce discours-là, on l'a déjà entendu les années passées, lors d'autres échéances électorales.
Mais c'est pas parce qu'on l'a entendu d'autres années qu'il est dépassé.
Et la vague continue de monter.
Oui, ça veut dire qu'il faut combattre. Il faut pas, je crois, dans ces cas-là, il faut pas dramatiser les choses. Il ne faut pas crier au loup, il faut simplement dire, d'abord, les élections régionales, c'est des élections qui concernent les gens. Donc, il va y avoir des conséquences. Je prends un exemple très simple. En Île-de-France, tout le tissu associatif est menacé par une victoire de la droite et par les coupes budgétaires qui sont annoncées. Donc, il faut partir des vrais problèmes des gens, montrant que ce n'est pas simplement un débat idéologique, c'est un débat très concret. Et puis, en même temps, dire que chacun a un rôle par rapport à la République sur la manière dont on veut vivre ensemble.
Ne pas dramatiser, dites-vous, ne pas crier au loup, les appels de la presse locale, du monde culturel, du patron du MEDEF, ça sert à rien?
Non.
Ou c'est contre-productif?
Bon, écoutez, bon, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Bon, après, ce que fait la Voix du Nord, si vous me permettez, fait un travail simplement pédagogique, jusqu'à maintenant. Quel était le rôle du Front National? C'était effectivement de ne jamais parler de son programme, c'est-à-dire des slogans. Voilà, donc ils sont aux portes des responsabilités. Donc on regarde maintenant la réalité du programme du Front National. Et là, on a des curieuses surprises. Peut-être que les gens avant n'étaient pas très regardants sur ces programmes-là, mais on regarde, par exemple, la déclaration de Marine Le Pen. Le programme de Marine Le Pen, c'est des copier-coller avec des choses qui sont totalement contradictoires. Donc les journalistes font leur travail d'information, parce que c'est ça un journaliste qui fait un travail d'information. Évidemment, ça devient insupportable pour le Front National, parce que tout d'un coup, c'est fini la démagogie. Il est obligé de rendre compte de ses propres déclarations. Je vais prendre un exemple qui est quand même ahurissant. J'entendais les déclarations de Marion Maréchal Le Pen hier en meeting. J'avais envie de lui dire, mais il faut qu'elle parle avec son grand-père.
Les musulmans ne peuvent être français que sous condition.
Voilà, il faut qu'elle parle avec son grand-père. Son grand-père, il était pour l'Algérie française. À l'époque, l'Algérie là-bas, ça ne lui posait pas de problème. Mais la France, ce n'est pas un uniforme. La France, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une coiffe. Ce n'est pas la coiffe bretonne ou le béret basque. La France, c'est une diversité qui se fait au travers de droits et des devoirs, au travers d'une volonté de vivre ensemble. C'est ça, la France.
Elle voudrait que les Français se plient aux mœurs héritées de la chrétienté.
Oui,
voilà,
et vous savez,
ces termes.
Et vous savez, ça me faisait... Je regardais, je me disais, quelle drôle de situation. Au même moment, le roi Felipe revenait sur l'Inquisition et disait aux Juifs qui avaient été persécutés par l'Inquisition, comme vous nous avez manqué. C'est-à-dire, il y avait deux images. Il y avait une Espagne qui a vécu les persécutions, qui a mis en place des persécutions, qui se dit « ça a été une faute historique ». Il y a de l'autre côté une France qui voudrait se replier sur une France chrétienne. Mais d'abord, la France, elle n'est pas chrétienne. La France, elle est républicaine. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, quand on fait référence à la laïcité, ça a été un combat justement pour permettre à la France de devenir une France diverse et de respecter toutes les croyances. Donc là, il y a, vous disiez, quelle est la bataille qu'on doit avoir? C'est celle-là. C'est de faire que chacun se rende compte que derrière la peur, il y a la raison. Et c'est la raison qui doit l'emporter.
Bon, en tout cas, on ne peut pas dire que le Front National adoucit son discours.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Il est encore très haut dans les sondages, la dynamique est très forte. Je reviens exemples que j'ai cités, la charge de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Les communistes et le parti de gauche de Mélenchon disent que cette charge-là, elle est contre-productive, qu'elle peut inciter des électeurs mécontents à voter Front National.
Écoutez, pour une fois, vous voyez, pourtant Dieu sait si ces derniers temps, on s'est beaucoup disputé avec Mélenchon, mais je suis plutôt d'accord avec lui. Je suis pas certain qu'il nous rende service, parce qu'on devient le candidat des
Pierre
patrons.
Gattaz,
pour ceux qui sont chômeurs et qui ont l'impression que le grand patronat semble plein les poches dans la situation actuelle, c'est facile. Après, de dire, voyez, regardez, ils sont les représentants de l'establishment, etc. Bon, donc, disons-nous, c'est pas forcément la chose la plus intéressante pour nous dans la bataille. La bataille aujourd'hui, elle se mène de manière suivante. C'est pour ça que je voulais faire remarque. Regardez bien les sondages. Plus de 62% des Français pensent que le Front National représente une mauvaise image de la France. Plus de 62% des Français. Donc finalement, la progression, elle n'est liée que simplement à l'abstention. Et c'est ça la question qui est posée. C'est que si on s'abstient, on vote Front National aujourd'hui.
Fusion ou désistement entre droite et gauche, on va forcément en reparler dimanche soir ou lundi matin, Julien Drey.
Il y avait une bonne formule que moi je reprends, vous voyez, de Jean-Christophe Cambelli chez Œcuménique ce matin. Il le dit, il a raison, il dit « moi je mets pas le caleçon avant le pantalon ». Ouais. Voilà, et je trouve qu'elle va faire florer cette formule parce qu'elle est bonne. Ouais, j'attends le deuxième tour. Pourquoi ? Parce que
c'est Batman hein, qui mettait le caleçon. Enfin,
bon, ouais, bon, ouais. C'est un caleçon particulier, Batman. Voilà,
c'est ça.
Je suis pas sûr qu'il avait à cacher quelque chose. Comment dire ? Je vais vous donner un témoignage de terrain. Autant avant l'hommage rendu par le président de la République et la nation aux victimes des attentats, on sentait un total éloignement de nos concitoyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a suspendu notre campagne, parce qu'on sentait que on n'était pas dans le moment où il fallait parler des élections. Autant depuis ce week-end, on sent que il se passe quelque chose. Je ne sais pas si ça va aller jusqu'au bout. Je ne suis pas météorologue électoral, mais on sent qu'il se passe quelque chose. Et dans les heures qui viennent, il faut que chacun autour de lui se pose cette question simple. Est-ce que au soir du deuxième tour, la France va se réveiller avec une gueule de bois? Eh bien, moi, je pense que non, parce que je crois à la France républicaine. Et en tous les cas, je me bats pour ça jusqu'au bout.
En attendant une éventuelle gueule de bois ou pas, Julien Drey, nous sommes depuis deux semaines maintenant en état d'urgence. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette situation d'état d'urgence?
Alors, je vais vous dire, je le redis, on n'est jamais à l'aise quand on est un homme de gauche attaché à la démocratie avec les états d'urgence. On sait toujours que l'état d'urgence conduit à des dérapages. Ce ne peut être qu'un état intermédiaire. Ça ne peut pas être un état qui...
Ça conduit toujours à des dérapages.
Ça conduit toujours à des dérapages. On le sait. C'est d'ailleurs, je veux dire, dans le jeu des terroristes...
Et déjà ? Il y en a déjà eu ?
Il n'y a pas eu de dérapage excessif, comme on l'a pu le connaître dans d'autres périodes de l'histoire. Mais on voit bien qu'il y a des glissements, parce qu'on est dans l'urgence. Et parce que si on a inventé l'état de droit, si on a inventé le juge pour contrôler, c'est bien pour ça, y compris protéger les policiers ou les enquêteurs à un moment donné. Donc l'état d'urgence, c'est une parenthèse à un moment donné qui est liée, à son terme l'indique, à l'urgence. Après, il faut revenir à l'état de droit, toujours, parce que c'est ça la démocratie. À chaque fois que les démocraties se remettent en cause dans la lutte contre le terrorisme, elles perdent leur identité et parfois elles deviennent pires que le bourreau.
Que répondez-vous à ceux qui veulent que... les interdictions de manifester soient levées tout de suite? Il y a eu un certain nombre d'appels qui ont été lancés pour que on revienne à une situation normale, mais, plus normale sur le plan des libertés publiques, que les assignations à résidence soient levées.
Mais l'objectif, c'est de revenir à des situations normales. L'objectif, c'est pas de criminaliser les mouvements
oui,
sociaux.
Oui, sauf que Manuel Valls a dit hier qu'il pourrait prolonger l'état d'urgence de 3 mois.
On examinera et c'est le Parlement qui décidera. Il faudra voir la situation, il faudra voir les données qui seront posées, les risques tels qu'ils sont évalués à ce moment-là. Mais on voit bien qu'il faut faire très attention. Parce que, y compris les adversaires des démocraties se servent de ces situations-là. Voilà. Alors, concernant les manifestations de dimanche, parce que je voudrais revenir là-dessus. Faut pas non plus qu'on prenne tout le monde pour des imbéciles. On sait que dans tous les rassemblements internationaux aujourd'hui, il y a des groupuscules d'extrême gauche, de gauche radicale d'ailleurs, ou d'ultra-gauche plus exactement, parce que moi j'ai du respect pour l'extrême gauche, au regard de ce que j'ai fait quand j'étais jeune, mais qui les instrumentalisent, les manipulent. Vous savez, il y avait une phrase qu'on connaissait quand on était jeune, ça s'appelait « provocation, répression, mobilisation ». Voilà, c'était le slogan. Donc, il faut faire attention. Parce que si
c'est passé dimanche, place de la République.
Il y a eu une manifestation très pacifique qui était la chaîne humaine. Il y a eu une image symbolique qui était le dépôt des chaussures. Il n'y avait pas besoin d'en rajouter là. Et je le dis d'ailleurs gentiment, Olivier Besancenot, pourquoi essayer de faire un petit cortège qui part vers le Bataclan? À ce moment-là, on sait ce qui va se passer. Il n'est pas tombé de la première pluie. Il sait ce que ça veut dire. Et je pense que c'est inutile. Et il ne rend pas service au combat que nous menons, y compris pour revenir à un État démocratique.
Un dernier mot à propos des déchéances de nationalité. Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS que vous citiez tout à l'heure, disait dimanche « on sait que ça n'a aucune efficacité, mais c'était pour faire plaisir aux Républicains, pour entretenir l'esprit d'union nationale ». Voilà ce qu'il disait en substance. C'est curieux comme décision.
La chose est simple. Dans la lutte contre le terrorisme, c'est pas la mesure essentielle. Parce que celui qui veut partir en kamikaze, la question de la déchéance de nationalité, c'est quand même une question secondaire pour lui. Bon, mais symboliquement, on voulait montrer qu'effectivement la France ne pouvait pas reconnaître ou admettre en son sein, justement parce qu'elle a l'impact de citoyens libres, ceux qui voulaient la détruire ou qui voulaient la faire sauter. Voilà, donc c'est une mesure symbolique. Et à ce titre-là, plutôt que d'avoir un débat théologique, permettre à certains d'esquiver leurs responsabilités, on l'a dit, faisons-le. Vous avez vu, le ministre de l'Intérieur il y a eu 5 ou 6 demandes de radiation de nationalité. C'est pas excessif.
Depuis,
bon, voilà.
Depuis 2004, ouais. Julien Drey, invité de France Inter. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions et les commentaires des auditeurs et internautes de France Inter. Il est 8h30. L'heure de la rue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence par la lutte contre l'organisation État islamique. La coalition anti-Daesh s'étoffe. Les services français, eux, semblent vouloir cibler un lieu précis.
Photo aérienne d'un stade dans le Figaro, le stade de football de Raqqa. C'est Georges Malbruno qui nous raconte comment les services de renseignement français sont aujourd'hui convaincus que ce stade est devenu le centre névralgique de Daesh dans son fief syrien, centre de planification et de commandement opérationnel de ses actions terroristes. Deux indices ont aiguillé les grandes oreilles. D'abord, une densité de communication émise à partir de cette enceinte sportive, et puis l'absence de déplacements repérés sur les images satellites. On voit des exécutions dans ce stade, mais personne pour conduire les prisonniers jusque-là. Déduction des services, eh bien c'est là que les opposants sont détenus. Daesh utiliserait en fait des cellules souterraines construites par le régime syrien qui confinait lui-même ses opposants. Ce stade, où ont donc peut-être été préparés les attentats de Paris, est devenu une cible prioritaire. Les services français cherchent à se procurer les plans de ces prisons souterraines, aux mains évidemment de leurs homologues syriens. Alors est-ce la raison pour laquelle il y a 10 jours, une équipe d'espions français s'est rendue à Damas, s'interroge Malbruno. Ils ont en tout cas été froidement reçus par les Syriens qui continuent de conditionner leur aide à la réouverture de l'ambassade de France à Damas et à la fourniture d'armes pour lutter contre Daesh. Demande évidemment impossible à satisfaire. Au-delà du stade, reportage sur la vie quotidienne à Raqqa, à lire dans Libération. Les hommes de l'organisation État islamique régentent tout dans la terreur. De la longueur des djellabas pour les hommes aux abayas noirs des femmes, des programmes scolaires aux loisirs avec coups de fouet et amendes exorbitantes aux fumeurs, tricheurs ou retardataires à la prière. Daesh a fait des zones contrôlées un laboratoire d'une nouvelle société réactionnaire, souligne un rapport documenté par des exilés. Sa nouvelle devise est explicite pour tenter de faire plier jusqu'au dernier les habitants de la ville. Nous transformerons nos régions en un paradis, sinon nous irons tous au paradis.
Julien Drey, vous vouliez réagir sur... L'attraction en Syrie, c'est ça?
Oui, d'abord, bon, on découvre peut-être aujourd'hui ce qui se passe dans le stade de Raqqa, mais on le savait déjà depuis un certain temps. On sait que les vestiaires avaient servi à abriter, entre guillemets, les otages français. La question qui est posée sur Raqqa, c'est qu'on n'a pas besoin de Bachar al-Assad et des troupes de Bachar al-Assad. On a besoin simplement que les troupes kurdes puissent avoir l'armement nécessaire pour avancer. Elles sont à 27 km de Raqqa. Le problème que nous avons, c'est que les Turcs mettent aujourd'hui, je dirais, une interdiction à cela. La ville de Raqqa, elle peut tomber du jour au lendemain. Il y a simplement besoin que les troupes kurdes disposent des armes anti-aériennes et surtout des armes contre les chars qui ont été récupérés de l'armée irakienne. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, ça me permet de rebondir sur la chronique de Bernard Guetta. Ceux qui se battent aujourd'hui ne sont pas ceux qui sont tous soutenus, comme ils devraient l'être, par le monde occidental. Ceux qui se battent aujourd'hui, les véritables combattants, vous savez, je l'ai fait ici, à l'époque, il y avait 1 an et demi, quand je vous parlais de la bataille de Kobané. Tout le monde avait couvert Kobané. Et c'est ça qu'il faut faire. Et ce que je voudrais pas, c'est que l'histoire recommence. C'est-à-dire qu'encore une fois, le peuple kurde soit le grand oublié, alors que c'est lui qui se bat. Et qui se bat véritablement. Et qui se bat y compris sur le plan social. Parce que ce qui se passe là-bas est un exemple pour le monde. Totale parité de toutes les unités de commandement et de toutes les unités de gestion. Autoproduction de la production pétrolière qui est livrée à la population. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils arrivent à tenir. Parce qu'avec des bouts de ficelle, mais parce qu'ils ont mis un contenu social à leur combat, il y a toute une population, y compris la population dite arabe, qui est en train de basculer. Et évidemment, les grandes puissances occidentales, elles se méfient de ça, parce que c'est très contagieux dans la région, cela. Et c'est pour ça que je voudrais que la France, qui a déjà fait beaucoup pour les combattants kurdes, soit la pointe de cela.
On s'illusionne ou on se fait trop d'illusions encore sur la Turquie. Il est temps d'ouvrir les yeux.
Écoutez, vous avez
vrai sur le rôle de la Turquie.
Oui, mais ça fait des mois qu'on sait que la Turquie est au cœur du travail, de la vente du pétrole de Daesh. 2/3 de la production pétrolière vendue par Daesh est transbordée vers la Turquie et des personnalités très importantes du régime sont associées à ce trafic pétrolier. Donc la vraie question qui est posée, c'est effectivement, non pas la Turquie, le gouvernement d'Erdogan, ce qui n'est pas la même chose.
Autre reportage à lire dans la presse ce matin, Hélène, sur 13 millions d'enfants qui n'existent pas.
Oui, on les appelle en Chine les enfants noirs. 13 millions d'enfants fantômes. 13 millions, c'est plus que la population du Portugal. Qui n'ont aucune existence légale. Ils paient en fait la faute de leurs parents, celle d'avoir mis au monde un deuxième ou troisième enfant quand le régime imposait la règle de l'enfant unique. Récit sidérant du correspondant à Pékin du Figaro, Patrick Saint-Paul, qui nous raconte donc la vie d'une jeune femme qui vit depuis son enfance dans un monde parallèle. Née 6 ans après sa sœur, Li Dominique Zoué n'a jamais fréquenté l'école, jamais pris le train. Elle est interdite dans les hôpitaux, les bibliothèques, interdite d'emploi. Elle n'a jamais eu de petite amie. À quoi bon, soupire-t-elle. Je n'ai ni le droit de me marier, ni celui d'avoir des enfants. Sans diplôme officiel, Lik Zoué est pourtant devenue une spécialiste du droit chinois des affaires familiales. Alors aujourd'hui, elle se bat pour faire reconnaître son existence et ses droits. Elle est soutenue par les médias chinois qui, à leur tour, font campagne pour ses enfants noirs. La nouvelle politique de Pékin de deux enfants leur laisse enfin quelque espoir de régularisation.
COP21, on attend les résultats, mais il semble qu'on ait oublié le rôle d'une femme dans la prise de conscience des dangers du réchauffement climatique. Hélène, c'est inattendu.
Rendons à Maggie ce qui appartient à Maggie. Et oui, c'est Olivier Postel-Vinet dans Libération.
Et dans Libération.
Qui raconte le rôle de lanceur d'alerte que joua la Dame de Fer en matière de réchauffement climatique. Dès 1985, Margaret Thatcher est sensibilisée au sujet par l'un de ses conseillers au Foreign Office qui a écrit un livre prémonitoire. En 88, devant une Royal Society sidérée, elle sonne le tocsin pour évoquer le risque de fonte accélérée des glaces. Elle encourage la création du GIEC, ce groupe d'experts internationaux sur lequel s'appuient aujourd'hui les négociateurs. En 89, à la veille de la chute du mur de Berlin, elle évoque à la tribune des Nations Unies la perspective d'un dommage irréparable à l'atmosphère, aux océans et à la Terre elle-même, dit-elle. Son dernier message politique sera pour appeler le plus grand nombre de pays à signer une convention cadre sur le climat. Le sommet de Rio en 92 se réunira sans elle. Elle vient de démissionner, mais à l'heure de la COP21, eh ben voilà qu'on redécouvre la première écolo.
Campagne régionale également à la une de la presse ce matin qui souligne la montée du Front National.
Dessin de Lefray Touron dans le Canard enchaîné, d'un Français perturbé. Je me demande ce que je redoute le plus, dit-il, la montée des eaux ou celle du Front National. Une de Charlie Hebdo, avec le visage démultiplié de Marion Maréchal Le Pen qui clame bientôt dans toute la France. Une de L'Express également sur la marée FN. Alors si vos quotidiens relèvent que François Hollande est bien parvenu à l'inversion de la courbe des sondages à son profit, tous soulignent aussi que ça ne devrait pas changer grand-chose au choc auquel il faut s'attendre au soir du premier tour, à savoir un FN en tête dans de nombreuses régions. Revoilà le casse-tête du Front Républicain, souligne aujourd'hui en France le Parisien. Casse-tête surtout pour le PS évidemment, rester, se retirer, fusionner pour éviter une victoire du FN. On y apprend que dans le Grand Est, où Florian Philippot est donné pour la première fois vainqueur en 4 triangulaires, les deux têtes de liste, PS et les Républicains, seraient déjà en train de négocier depuis deux mois pour une éventuelle fusion de leur liste. En attendant, nous raconte le Huffington Post, comme à chaque élection, les faux tracts de campagne surgissent. L'un diffusé sur les réseaux sociaux avec Marion Maréchal Le Pen en photo encourage les électeurs à dessiner un petit cœur sur le bulletin de vote pour lui dire tout son amour. Une annotation évidemment signe de nullité pour le bulletin. Lors des élections départementales, le FN avait déposé plainte contre SOS Racisme pour avoir encouragé les électeurs frontistes à ajouter ce petit cœur. Julien Drey, c'est tout ce qui reste pour éviter une victoire du Front National, un petit cœur pour Marion Maréchal Le Pen.
Mais c'est pas mal déjà de voir le cœur, non? Si vous me permettez.
Mais c'est ça la mobilisation
non,
citoyenne dont
pas,
vous parliez tout
ça,
à l'heure.
Je dis, c'est pas de caricature, pas non plus cela. Je veux dire, c'est les batailles sur les réseaux sociaux. La bataille sur les réseaux sociaux, elle a aussi un peu d'humour, et donc il faut la prendre comme telle. Ce qui compte, c'est l'argumentation systématique. J'ai essayé de le faire ce matin, et la mobilisation citoyenne. Mais vous savez, je prends date ici devant vous parce que peut-être je peux me tromper. On verra si au sortir de ces élections, les grands perdants ne sont pas les instituts de sondage.
Bon, en tout cas, à droite, Nicolas Sarkozy vient de fermer la porte à toute tractation. Nous maintiendrons nos listes partout où nous serons en position de les maintenir, vient-il de déclarer à Europe 1. On termine, Hélène, avec une petite revanche sur nos amis belges, pourtant nombreux à France Inter.
Ouais, franchement, il n'y a pas photo. Enfin, si, justement, il y a une photo, elle est dans le Canard enchaîné, c'est celle du roi des Belges, sirotant son cocktail à Quiberon, en peignoir de bain pour un petit week-end à l'assaut. Pas de chance. C'est le week-end où Bruxelles est en alerte 4 pour cause de terrorisme. Comme pourri, donc, pour le Palais Royal de Belgique. À l'inverse, chez nous, communication au cordeau pour notre ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Confidence faite au Figaro sur les heures sombres que la France et lui-même viennent de vivre. On ne s'habitue jamais à la mort, confesse-t-il. Vous êtes constamment dans la pensée des familles, des victimes, qui avaient pour la plupart l'âge de mes enfants, dit-il. Mais il faut prendre sur soi, vous avez le droit de vous laisser submerger, mais vous n'avez pas le droit qu'on le sache. Eh bien si, c'est fait, on le fait, on le sait désormais. Enfin, c'est quand même pas mal fait, mieux en tout cas que le roi des Belges.
Merci Hélène Jouange.